Si on regarde la définition de la science-fiction dans le dictionnaire, on lit ceci. Genre littéraire qui décrit un état futur du monde en extrapolant les données de la science et de la technologie. En gros, quand on dit qu'on va droit dans le mur, la science-fiction, elle, nous explique quelle tête on aura après s'être pris le mur. Il y a quelques semaines, en allant voir Dune 2, ma compagne m'a demandé « Mais Dune, c'est pas de la SF ?»« Mais bien sûr que oui !» ai-je répondu avec cette condescendance caractéristique du geek trop content de savoir enfin un truc que madame ne sait pas. Donc Star Wars, c'est de la SF aussi, vu que tu m'as dit qu'il s'était inspiré de Dune. Non, Star Wars, c'est plutôt du space opéra. Là, elle m'a regardé, elle m'a demandé « C'est quoi la différence ?» Bah, Star Wars, c'est plutôt de la fantasy dans l'espace, il y a de la magie, des chevaliers... Et puis c'était il y a longtemps, dans une galaxie lointaine. Mais dans Dune aussi, il y a de la magie. Tu sais, là, quand Paul il utilise la voix, les épices, les Bene Gesserit, tout ça, c'est pas hyper scientifique. Alors, il faut savoir qu'une grande partie de ma confiance en moi vient du fait de ne jamais prolonger les conversations où je sais qu'à la fin, j'aurai tort. C'est un peu mon super pouvoir à moi, donc j'ai tout de suite botté en touche. Mais de toute façon, on s'en fout. Frank Herbert, il a fait publier ça en 65. Les robots d'Asimov, c'était en 1950. Le nécromancien de Gibson, c'était en 84. Barjavel, c'est 68. Tu trouves pas ça dingue qu'en 2024, nos visions du futur soient phagocytées par des auteurs du passé? Là, ma femme m'a regardé, apparemment impressionnée par la pertinence de mon analyse, et elle m'a dit « Ouais, en gros, tu sais pas pourquoi Dune, c'est de la SF et Star Wars, non ?» Non, je sais pas. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Frédéric Sigrist et voici le troisième épisode de Crossover, le podcast Urban Comics qui vous parle de tous les mondes de la BD américaine. Et pour ce troisième numéro qui va parler science-fiction, vous l'avez deviné, j'ai à mes côtés Arthur Wignard, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes assistant éditorial chez Urban.
Tout à fait.
Avec nous également Léo Brahim, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes libraire dans la librairie Martin Delbert.
Oui.
Avec nous également Julien Cespedes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes libraire dans la librairie La Dimension Fantastique.
C'est exact.
Et avec nous Benjamin Jérôme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour le magazine Parisien.
Oui, c'est ça.
Alors, ma première question, c'est une question extrêmement simple. Quelle est votre définition de la science-fiction, Léo?
Pour mon rayon, et pour moi, je m'en tiens à une définition que j'ai appris pendant mes cours d'IUT et que j'utilise tout le temps. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui tourne autour d'éléments technologiques ou scientifiques futuristes qui influent la société. C'est vraiment une première approche. Après, je plonge plus dans les détails quand on me demande de l'expliquer. Mais pour caractériser et orienter une clientèle dans une librairie généraliste, je dis que c'est une œuvre de fiction, voilà, influencée par des événements technologiques, scientifiques, parfois environnementaux, qui ne sont pas arrivés.
Voilà. Et alors justement, pour vous me parlez de clientèle qui rentre dans votre librairie. Est-ce que ça arrive assez souvent que des gens demandent spécifiquement de la science-fiction?
Dans mon rayon bande dessinée, ça arrive. Moins pour eux-mêmes, parce que les gens qui aiment la science-fiction ne m'en demandent pas, mais ça vous la cherchez, mais plus quand on me demande un cadeau pour un jeune adulte ou un proche de la famille, on sait pas trop ce qu'il aime. On sait qu'il a bien aimé le dernier Dune, qu'il a bien aimé Star Wars, on met vaguement un terme science-fiction dessus, mais pas plus précis. Et après, c'est moi qui, dans mon rayon, creuse pour leur trouver quoi.
Et en termes de genre, c'est plutôt des conseils destinés à des garçons ou plutôt à des filles?
Question piège, majoritairement des garçons, je dirais. Mais des fois, ils ne connaissent même pas le genre de la personne à qui le conseiller. Donc, je dirais une personne de 20 à 30 ans qui ne sait pas quoi lire, sauf de l'ASF.
C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le genre de la personne à qui veut offrir un cadeau?
Oui.
Ah oui, d'accord.
Ça arrive très souvent à Noël.
Mais on sait juste qu'il aime la science-fiction.
Vaguement. Voilà. C'est un point de départ parmi tant d'autres.
Julien Cespedes, même question en termes de public qui vient demander de la science-fiction. C'est quel type de client?
Bah nous, comme on est spécialisé, c'est un public assez varié. Il y a à la fois les gens qui aiment déjà le genre et qui viennent et qui vraiment tout âge, tout genre, et un public qui lui par contre n'y connaît rien et vient pour faire plaisir à quelqu'un. Et c'est vrai que c'est assez varié, comme on est quand même connu pour cette spécialisation là. Et justement, on est amené souvent à réexpliquer un petit peu la base des genres. On peut souvent parler des films pour essayer d'aider à redistinguer un peu les genres, pour parce que les gens des fois confondent science-fiction, fantasy, fantastique. Et mine de rien, un fan de science-fiction, on va pas forcément lui donner un livre de fantasy ou de fantastique. Et moi, j'aime bien reprendre une définition d'un éditeur français qui, pour expliquer de manière très simple, prend le concept du chat. Je sais pas si vous le connaissez. En gros, dans un roman que vous lisez, vous avez un chat, il vous parle. Et en fait, il y a trois réactions à avoir. Soit le chat parle parce qu'il a subi une modification génétique, technologique, et du coup, vous êtes dans un roman de science-fiction. S'il parle et que c'est naturel, ça fait partie du milieu présent et qu'il y a peut-être même d'autres créatures fantastiques, là, on est dans la fantasy. Mais par contre, si vous avez un sentiment d'étrangeté, vous êtes un peu inquiet quand il vous parle, c'est pas normal, là, vous êtes dans le fantastique. Et déjà, ça aide bien à pouvoir rediriger les gens vers le bon genre et trouver le livre qui correspondrait le mieux.
Et s'il fait des vannes, vous êtes dans une BD de Philippe Guéluc, c'est ça?
Oui, ça marche aussi. Mais ouais. Du coup, c'est presque de la fantaisie.
Benjamin Jérôme, quelle est votre définition de la science-fiction?
Ah, moi, j'ai pas une définition professionnelle comme les deux libraires, là. Mais pour moi, c'est un monde, c'est une vision d'un monde dans lequel on aurait pimenté les choses. C'est-à-dire ajouter un élément scientifique supplémentaire, ajouter un progrès ou une évolution de la société, de l'humanité qui fait que ben, la société, comme elle se développe, elle est différente. Et ça permet de pas mal de choses. Voilà. Moi, je pense en termes de piment.
Arthur Huniard, donc vous travaillez chez Urban. On sait que la spécialité d'Urban, c'est quand même le super-héros. Mais vous avez une inclinaison naturelle vers la science-fiction. Pourquoi? C'est quoi votre définition de la science-fiction?
Alors, c'est vrai que quand on parle d'Urban, on pense d'abord au super-héros parce que Urban est le licencié de DC Comics officiel depuis maintenant presque 12 ans. Mais Urban, c'est aussi un gros travail sur les comics indépendants, les comics de genre, dans lequel on retrouve beaucoup de titres de science-fiction dans notre catalogue, mais aussi de polar, de fantastique, de fantasy. Mais la SF prend une part prépondérante, donc ça c'est plus pour revenir un petit peu sur la partie urbaine. Pour ce qui est de ma définition pure, entre guillemets, de la science-fiction, pour moi c'est un peu... ça me fait penser à l'avenir, la science-fiction. C'est-à-dire que tous les grands auteurs qui ont posé des bases dans les années... 40, 50, 60, d'abord en littérature, puis après en bande dessinée, notamment française, ont imaginé un peu des futurs possibles, des trames temporelles. Et en fait, moi, quand je pense à l'avenir, même sans parler de SF, j'imagine toujours un chemin avec plein de ramifications possibles et des probabilités que ça prenne cette direction ou une autre. Et pour moi, c'est un peu ça, la SF. C'est pour ça que j'aime la SF, c'est que des visions d'auteurs apportent plein de futurs possibles. Tant technologique que en termes d'évolution, de changement, de découverte, soit en partant d'une uchronie, c'est-à-dire en allant modifier un élément de notre histoire qui nous permet de la réécrire complètement, soit en imaginant quelque chose qui ne s'est pas encore produit, mais qui pourra fondamentalement changer la société et le monde tel qu'on veut le poser dans l'œuvre en question.
Ce que j'ai pu retenir de ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a souvent une sorte de convergence de passion autour de la science-fiction entre les amateurs de SF en littérature, les amateurs de SF en film et les amateurs de SF en bande dessinée. Mmh. Est-ce que ce sont les mêmes ou est-ce que ce sont trois types de clients différents?
Toujours pour moi? Je pense que ça peut être potentiellement les mêmes. On va dire que il y a l'appétence de base pour le genre. Après, tout le monde ne consomme pas la culture de la même manière. Tout le monde n'a pas le même temps à accorder à la culture de la même manière. Il y a des gens qui ne lisent que des romans, des gens qui ne lisent que des BD. La plupart des gens regardent des films, mais il y a des gens qui passent beaucoup plus de temps que d'autres. Il y en a qui sont complétistes et qui aiment bien toucher un petit peu à tout. Je pense que là où il y a un point commun, c'est qu'ils recherchent quelque chose. Ils veulent qu'on leur raconte une histoire. Et pour moi, la SF fait vraiment partie de ces genres qui représentent le mieux une histoire, un voyage particulier, parce qu'il y a toujours une transposition dans un monde qui sera radicalement différent d'une autre pour différentes raisons technologiques ou autres.
Voilà. Léo Brahim, est-ce que ces publics sont peureux?
Ça dépend des périodes. En fait, j'ai pas le rayon science-fiction dans ma librairie qui m'appartient, c'est un autre collègue, mais je dirais que ça dépend des périodes. En période calme, quand il n'y a pas trop de production pop culture associée, de films, de séries, c'est un public qui est très... pas réservé, mais très fermé. C'est souvent les mêmes personnes, et à moins qu'on les y incite, c'est les mêmes qui vont consommer différents genres de science-fiction. Mais quand on a des grandes périodes d'ouverture avec des films comme Dune, avec des sagas, même les Mandalorian ou les Star Wars, si on n'a plus de films depuis quelques années, ça ouvre un peu plus les ports, et je suis persuadé qu'en littérature, moi c'est le cas en BD, j'ai plus de gens qui viennent m'en demander, qui viennent me demander des récits dans ce genre-là, ou qui viennent tester par curiosité d'autres univers qui pourraient s'en rapprocher. et un effet ricochet qui sait beaucoup plus.
Benjamin Jérôme,
sur là-dessus, je peux dire juste oui. Un truc. Je pense quand même que la science-fiction, c'est d'abord un univers, c'est des univers. Alors il y en a, ça va être post-apocalyptique, il y a tout qui part en vrille, ou alors on a des vaisseaux spatiaux qui vont dans le monde, enfin dans l'univers entier, avec des mecs qui manient la magie, on a Star Wars. Mais c'est d'abord des univers, et c'est des univers qui sont cinématographiques, parce que très visuels, et que donc c'est assez facile finalement d'en faire soit de passer d'un genre à l'autre, de passer du film à la BD, à la série, au jeu de rôle aussi. Et c'est peut-être pour ça que c'est multiforme en fait la science-fiction. Voilà. Et d'ailleurs Star Wars, vous parlez Star Wars, mais Star Wars était d'abord un film. C'est devenu, il y a plein de comics Star Wars, il y a aussi des livres, mais on a plein d'exemples dans l'autre sens.
Oui.
Je pense qu'on les abordera.
Alors on parle de science-fiction, mais est-ce qu'il y a une science-fiction américaine et si oui, est-ce qu'elle diffère de la science-fiction française? Parce que quand on pense science-fiction française, on pense évidemment à Mobius, Jodorowsky, La Casse des Métabarons, mais est-ce que la SF américaine est différente et en quoi?
Alors moi je pense, alors en tant que lecteur, il y a un élément de forme à prendre en compte, c'est que les comics américains quand ils sont publiés aux États-Unis, ils sont publiés sous forme de livrets qui font 10, 20 pages, qui sont sur des formats qui sont pas les mêmes que nos BD européennes, qui sont des grands formats. Et je pense que la forme a une influence énorme sur la production. Nous, ça nous arrive avec une belle couverture rigide et c'est des compilations, en fait, de comics américains. Et ça joue sur le produit en lui-même. Et alors là, c'est le moment où je me fais pas des amis, mais graphiquement, je pense que c'est une contrainte supplémentaire. Et personnellement, moi, les claques graphiques que j'ai prises, c'est pas avec la BD américaine. C'est plus, il y a plein de BD européennes. On peut peut-être en citer là. Je sais pas si c'est le lieu, mais vous prenez Blast, par exemple, oui. De Manu Larsenet, en noir et blanc, c'est époustouflant. Vous prenez L'âge d'or de Cyril Pedrosa. Voilà, c'est hyper intéressant. Il y a des très beaux comics américains, mais c'est plus contraint. En revanche, le fait d'avoir des histoires qui doivent se tenir sur une vingtaine de pages et on embraye, je pense que les auteurs américains, ils ont moins le temps de se regarder écrire que les auteurs européens qui arrivent à sortir des albums qui font 200 pages et que ça se sent quand on lit les comics américains parce que c'est très riche. Il y a des changements de ton très rapides, on passe d'un personnage à l'autre, d'une scénette à l'autre. Il y a des rebondissements tout le temps. Et encore une fois, je pense que c'est influencé par la forme dans laquelle ça s'est publié aussi.
Le côté sérial épisodique qui crée justement une dramaturgie plus mouvementée.
Ouais, voilà, vous avez tout le temps quelque chose qui se passe en fait. Dans la BD européenne, c'est peut-être parfois plus contemplatif. Pareil, si vous prenez Loisiel, c'est contemplatif un petit peu. Je le vois moins dans les comics américains.
Julien Cespedes, est-ce que on peut différencier la science-fiction américaine de la science-fiction européenne?
Ben, en termes de comics, je suis d'accord sur la production, la forme, parce que c'est vrai que le fait, c'est quand c'est les choses en petit issue de quelques pages, ça crée une tension différente, ça fait un côté sérialisé. Mais la base reste quand même la même sur les thématiques. Mais j'ai l'impression que pour la partie américaine, il y a une diffusion plus restreinte. Nous, en tout cas, en bande dessinée, c'est beaucoup plus admis, beaucoup plus courant en BD, franco-belge notamment. D'ailleurs, pour conclure sur la partie différencier les lecteurs des personnes qui voient les films aussi, c'est beaucoup plus toléré pour une personne de parler d'un film de science-fiction que de parler d'une lecture de science-fiction en tant que roman, voire BD. C'est moins admis parce que considéré comme plus adolescent parfois. Mais la source est la même et on parlait aussi des genres. Enfin, la SF, c'est plein de sous-genres, que ce soit l'anticipation à la base, le space opéra, l'Uchronie, etc. Et on part quand même de la même chose pour... c'est juste le rythme qui va être différent, peut-être graphiquement aussi, parce que c'est vrai que la contrainte de temps ne crée pas aussi forcément la même manière de dessiner et les projets n'ont pas la même ambition, le côté effectivement onirique ou contemplatif qu'on peut avoir dans des BD françaises par exemple.
Arthur Hunyard, la SF américaine en bande dessinée, est-ce que c'est très différent de la SF en BD française?
Je pense qu'elle l'a été et qu'elle ressemble de plus en plus à de la SF française. Je vais m'expliquer. J'ai la sensation, en tout cas par mes lectures, qui ne correspondaient pas à mon âge, mais plutôt à la jeunesse de mon père, que l'âge d'or de la SF français...
Le lec des papas.
Ouais, l'âge d'or de la SF des Français était autour de Bilal, Moebius et Daurier, et Jean-Claude Mézières, bien évidemment, Valérian. Donc là, on parle des années 70-80, ils ont quand même posé énormément de bases graphiques. Mais surtout, dans le traitement de la SF, donc on met Valérian de côté, il y a surtout beaucoup d'anti-héros. J'ai la sensation, en tout cas dans mes lectures. Si on prend La Foire aux Immortels de Bilal, c'est clairement un gars qui était condamné à la tôle, qui sort de sa cryogénisation, retombe sur Terre, et un dieu égyptien prend possession de son corps. C'est pas un type brillant, c'est pas un type qui va sauver Paris, et pourtant c'est lui qu'on suit. La SF américaine a mis du temps à s'approprier des anti-héros. Là, j'ai un exemple qui me vient plus récent, ça va être Fear Agent de Rick Remender, où on va suivre ce badass aviné qui est un petit peu le dernier espoir de l'espèce humaine. C'est récent, on est dans les années 2000-2010. Et je pense que ça, la SF américaine a mis du temps avant d'accepter que les gens n'ont pas toujours envie de suivre des héros qui vont sauver le monde, derrière qui on pourrait vouloir se fédérer. On le ressent notamment dans Dune. Il y a eu une excellente interview de Denis Villeneuve là-dessus, où lui, il a eu l'opportunité de mettre dans son film ce que Herbert a voulu faire dans son premier livre et n'a pas été compris. Herbert critiquait la position messianique du héros. Et quand Dune est sorti, tout le monde a acclamé le héros qui était Paul alors qu'il était en train de critiquer ce qu'il était en train de devenir. Et c'est pour ça qu'il a été obligé, Frank Herbert, d'écrire tout de suite le Messie de Dune, qui fait 260 pages, qui peut paraître très déceptif pour les gens qui ont pris une claque sur le premier Dune, parce que c'était vraiment là pour un petit peu rattraper ce que les gens n'avaient pas compris. Et ça, nous, en France, on l'a plus su. Dans la cale aussi, John Difool est totalement un anti-héros. C'est même pire que le gars dans La Foire aux Immortels, dont le nom Nicopole, pardon. C'est même pire que pour Nicopole, c'est que pour le coup, c'est vraiment un détective privé pourri qui passe son temps à aller aux homéoputes et à se défoncer au SPV. Voilà, c'est clairement pas une figure paternelle, on va dire, avec laquelle on a envie de grandir. Et pour moi, la différence, elle est là. C'est que au début de ces lancements graphiques de SF, il y avait une grande disparité entre les Américains et les Français. Et c'est en train de s'inverser un petit peu.
Et est-ce qu'il y aurait un début d'explication quelque chose qui expliquerait ce changement, justement? C'est politique, sociétal?
Il y a peut-être un petit peu de ça. C'est toujours un petit peu difficile de définir les tendances. La culture étant internationalisée et passant les frontières, on voit des films français peuvent recevoir des Oscars. La culture américaine s'est toujours très bien implantée aux États-Unis. Le manga rayonne partout dans le monde, particulièrement en France, mais également aux États-Unis. Donc, je pense que la culture bande dessinée, au sens large, est vraiment en train de totalement passer les frontières de tous les côtés. Donc, les inspirations des auteurs sont multiples. De là à dire qu'il n'y a qu'un seul élément qui explique ce revirement de situation, je ne suis pas sûr. Après, peut-être que les auteurs actuels de SF américaine, eux aussi, ont trop grandi avec des figures de héros qui viennent d'autres planètes et qui viennent sauver la Terre et qui ont envie de prendre le pendant de ça, d'écrire quelque chose de nouveau.
Mais justement, Léo Brahim, est-ce que le fait que le genre super-héroïque ait phagocyté de nombreux genres, mythologie, fantastique, mais aussi la SF, parce que finalement, Superman, c'est un personnage de science-fiction, Iron Man aussi, même Batman, d'une certaine manière, dans son rapport à ses gadgets, à sa Batmobile et tout ça, ça, c'est un petit peu de la science-fiction aussi. Est-ce que c'est pas ça qui explique que pendant très longtemps, la BD américaine a peut-être eu du mal à sortir de ce carton du héros ou de l'héroïne?
Dans le sens où il s'y serait conforté, où il l'aurait gardé dedans, c'est pas improbable. Ouais, je m'y attendais pas à celle-là.
Non, mais il faut faire exister les silences, c'est bien aussi.
Que ça définisse en soi ça.
Il y a aussi leur vécu, je pense, le vécu de la société américaine, comment elle a évolué, le pic de consommation, l'après-guerre, etc., qui s'est ressenti dans les récits. Et puis je me demande aussi s'il n'y a pas, on parlait de la différence entre la BD française, par exemple, ou de la BD américaine de science-fiction. Est-ce qu'il n'y a pas le parcours de lecteur aussi? Qu'est-ce qu'ils ont lu? Enfin, tous les auteurs de, on parlait de Druyer, Moebius, enfin, toute l'époque métal hurlant. C'était quand même des gros lecteurs de science-fiction avant tout. Du coup, ça a nourri leur récit. Ils ont pu en plus s'exprimer graphiquement, et peut-être se lâcher un peu plus, comme ils avaient déjà tout un parcours de lecteur assez développé à ce niveau-là. Et vu que maintenant les textes sont plus accessibles, etc., du coup, tout ça va se mélanger, se nourrir et s'enrichir et évoluer et permettre d'avoir des rapprochements entre les choses, mais tout en restant quand même créatif.
Et quand on pense à des équipes comme, par exemple, les Quatre Fantastiques, les Challengers of Unknown chez DC Comics, et même aussi à la saga du Quatrième Monde de Jack Kirby, est-ce qu'on mangeait pas déjà en tant que lecteur de BD américaine, est-ce qu'on mangeait pas déjà énormément de SF sans le savoir?
Si, comme en fait même beaucoup de lecteurs actuels, plein de gens ne diraient pas d'eux-mêmes qu'ils aiment la science-fiction alors que ils ont lu La Route, prix Pulitzer, ils ont adoré, mais c'est pas catalogué comme ça, mais oui, ils s'en sont nourris depuis des années.
C'est de la elevated SF.
Exactement. Ou du post-apo pour les plus généralement pour les lecteurs. Et d'ailleurs, on parle de La Route, là, je passe du coq à l'âne. D'ailleurs, l'Arsenal l'adapte en bande dessinée prochainement, donc c'est bien la preuve que ça va toucher un large public aussi.
Mais La Route, c'est aussi nourris, eu droit à un film, si je ne m'abuse, avec Viggo Mortensen.
Exactement, ouais.
Film pas très gay. Hein.
Oh non. Ouais. C'est pas le post-apocalyptique le plus positif qui existe.
Après, pour aller dans ce sens-là, je crois qu'à l'école, on devait lire Barjavel, Ravage, c'était des lectures d'école. Et c'était pas estampillé SF. Alors que pour rappeler.
Même Jules Verne.
Voilà, Jules Verne, pareil. Alors que Ravage, c'est vous avez un univers dans lequel, c'est pour le rappeler à ceux qui l'ont pas lu, où tout d'un coup l'électricité s'arrête. Voilà, ça c'est de la pure SF. On prend un concept dans un monde, on a un univers où il n'y a plus d'électricité, ça ne fonctionne plus. C'est de la science-fiction.
Et est-ce que la vision du futur, parce que c'est un petit peu ça qu'on...
Est-ce que je peux dire un truc sur les super-héros? Parce qu'il y a...
Benjamin, oui, vous pouvez dire des...
Parce que vous parlez de Superman comme un personnage de science-fiction et ainsi de suite. Et moi, je trouve qu'il y a une vraie différence, en fait, avec le monde des super-héros et et tout ce qu'on appelle la science-fiction, c'est que, pour moi, les univers du super-héros, ce qui importe, c'est le personnage qui a quelque chose de plus. Il est super. Voilà, c'est d'où le nom, d'ailleurs, de super-héros. Alors que dans la science-fiction, c'est l'univers qui est super. Dans le monde des super-héros, finalement, l'univers est assez banal. Vous retirez Superman ou tous les super-héros... Enfin, vous retirez Superman de l'équation, vous avez un monde d'une banalité, c'est notre monde en fait. Demain, vous faites Dune, vous retirez Paul, ben vous pouvez encore raconter 1000 histoires parce que le monde Dune, il est encore là. C'est vrai avec Star Wars. Alors Star Wars, vous avez des Jedi qui sont des personnages avec des pouvoirs. Quelque part, c'est des super-héros. Mais vous pouvez retirer les Jedi de l'équation et vous faites des films avec Han Solo et ça marche très bien et vous pouvez encore raconter 1000 histoires.
Alors les films avec Han Solo, ça marche pas super bien.
Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on peut continuer à raconter plein de choses.
Mais la série Andor était le meilleur contenu Star Wars des 10 dernières années et il n'y a pas l'ombre d'un Jedi.
Oui, mais Andor qui est plutôt un pamphlet politique
c'est pour ça que c'est
qui
bien.
S'est camouflé dans un Star Wars. Oui, regardez Andor. Mais oui, là on l'a senti que Tony Gilroy, il avait un agenda très spécifique sur cette série. Mais en même temps, il y a aussi une évolution. C'est-à-dire que là, on parle de Superman et donc on l'associe à Metropolis. Mais par exemple, pour une organisation comme celle des Green Lantern, là, si on retire les Green Lantern, le monde reste quand même un monde de SF avec des planètes. Là, dernièrement, il y a le dernier Supergirl qui va être adapté par James Gunn, Woman of Tomorrow. Où là, en fait, elle a beau être super, elle est placée dans une situation de quotidienneté où le fait qu'elle soit une super-héroïne ne change pas grand-chose. Donc, il y a aussi une évolution dans cette manière de placer le héros dans un univers qui, lui, reste super.
Nous sommes dans un monde de nuances. Est-ce que vous connaissez Tony Chou?
Oui.
Par exemple, Tony Chou, vous avez... Alors, pareil, j'explique. Peut-être, c'est un monde parallèle dans lequel vous avez Tony Chou qui a un pouvoir spécial, c'est-à-dire que ce qu'il mange lui permet, quand il mange quelque chose, ça lui permet de savoir d'où vient ce qu'il mange. Il mange de la compote, il est capable de savoir quelle pomme, de quel arbre elle est tombée. Et il se trouve qu'il est détective. Et l'univers, c'est un univers dans lequel on a banni le droit de manger de la volaille. Pourquoi, comment, pour quelles raisons, ça c'est tout, je vais pas spoiler tout ça, mais Tony Chou est donc un super héros dans un super univers. Avec, on a rajouté ce petit piment de pourquoi la volaille, il y a toute une histoire derrière. Et lui.
Amateur de cannibalisme.
Voilà. Et lui mange jusqu'à des cadavres pour deviner pourquoi ils sont morts et remonter les pistes. Mais en fait, vous retirez Tony Chou, vous avez encore un univers qui est chouette. Donc des fois, il y a des mariages qui sont intéressants.
Et est-ce que la vision du futur associée à la science-fiction a vieilli avec le temps en fonction des auteurs et de l'époque?
Bah, totalement, parce que la science-fiction, c'est un scénariste qui prend notre société et qui se dit « Ok, je prends les États-Unis des années 80, je rajoute le voyage spatial, qu'est-ce que c'est dans 200 ans ?» Donc forcément, à chaque récit de science-fiction, il va forcément prendre une vision de sa société et se dire « Comment est-ce que je peux la transposer dans le futur ?» Donc, on ne traite pas les mêmes sujets des années 80 à ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup plus, ne serait-ce que l'écologie, par exemple. Là où avant, dans les Watchmen, on a eu la peur du nucléaire, qu'on pourrait très bien avoir aujourd'hui encore avec la guerre. Mais c'est plus la préoccupation numéro une. Donc forcément, les visions évoluent avec les auteurs, parce que chaque fois, c'est un auteur qui se pose un instant T, qui regarde où il est, et qui dit « Bon, et j'essaie de faire un futur avec ça, et je rajoute de la triche, mais un argument scientifique ou technologique pour dire « Voilà ce que je veux essayer de montrer de ma société. »
Arthur ?
Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, pardon. J'ajouterais même que de toute façon les histoires sont écrites par des gens qui vivent dans le monde présent, donc si le monde change, la vie de ces écrivains, écrivaines change, et donc ce qu'ils auront envie de raconter changera aussi. J'ai la sensation que ce que les écrivains de SF produisaient il y a 40 ans ne prenait pas du tout la même direction que ce qu'on va écrire aujourd'hui. Je m'explique, il y a 40 ans, on trouvait très facilement des évolutions technologiques simples comme des voitures qui volent, des plats qui se cuisent tout seuls, des choses qui sont livrées à domicile. On peut prendre le cinquième élément, Bruce Willis dans son appart.
Alors qu'en ce moment, la carriole revient en force.
C'est ça. Et qui se fait livrer sa nourriture asiatique à la fenêtre. Au pied d'un immeuble de je ne sais pas combien de milliers de mètres d'eau. Cette vision-là, elle disparaît beaucoup dans la SF qui sort en ce moment. Si on veut parler de franco-belge récente, on peut parler de Mathieu Babelais avec Shangri-La et Carbone et Silicium, on peut parler de Benjamin Flau avec L'Âge d'eau. On va être sur des futurs qui sont peut-être pas plus pessimistes, mais en tout cas plus conscients du virage que prend notre civilisation. La course à la croissance infinie sur une planète finie, le climat qui se dérègle.
La frontière de Guillaume.
La frontière de Guillaume Saint-Gelin, exactement. C'est moins brillant, entre guillemets. C'est pas moins intéressant. Mais on sent que c'est pas du tout le même imaginaire qui s'est construit. C'est pas que ça nous prépare à ce qui va se passer, mais on dirait une vision un peu plus réaliste de ce vers quoi on tend. Et pour prendre un dernier exemple, et peut-être plus cinématographique, le début d'Interstellar. Les 45 premières minutes ressemblent énormément à ce à quoi ressemblera le monde dans une centaine d'années. On n'a plus besoin d'ingénieurs, mais on a besoin de fermiers. Et il faut nourrir la planète.
Donc, si je suis votre logique, la science-fiction serait une sorte de photographie des lanceurs d'alerte à différentes époques.
J'irai pas jusque là. Je pense qu'avant tout, les gens qui écrivent de la science-fiction, c'est parce qu'ils ont envie de raconter des histoires, soit pour coucher sur le papier des angoisses qui les habitent, soit parce que c'est un peu toujours ça, quand on a une idée, on commence à essayer de broder autour et on se rend compte que cette idée pourrait mériter d'être racontée et ça devient quelque chose. Ça peut être pour certains la cristallisation d'une peur, d'une angoisse, d'une réalité, d'une photo à un instant T de ce qu'on ressent. Mais je pense qu'avant tout, la motivation numéro un, c'est de raconter une histoire au plus grand public possible, en espérant que ça plaise aux gens. Je pense que c'est la motivation numéro un de la création.
Moi, je dirais que c'est plus le cas, mais sur la littérature. On s'en rend compte notamment avec la Kim Stanley Robinson, qui est considéré plus comme un lanceur d'alerte qu'un auteur de science-fiction, parce qu'il va parler du changement climatique. À contrario, je dirais que tu parlais de la BD et du fait des histoires assez sombres, etc., mais que sur la littérature, c'est un petit peu plus avancé, parce que là, on a tout un courant, en tout cas en SF contemporaine, de ce qui s'appelle maintenant, si on veut le catégoriser, le solarpunk de SF positif. justement qui va pas forcément s'intéresser, je vais prendre par exemple une des fers de lance de ce courant, Becky Chambers, va pas forcément s'intéresser à l'aventure spatiale à travers un de ses récits, mais plus aux gens qui l'accompagnent et du coup s'intéresser à des choses plus oniriques, alors que sur le format effectivement comics ou BD, on va plus vouloir raconter une histoire et du coup effectivement peut-être avoir des ressentis plus sombres, même si on parlait de Guillaume Saint-Gelin, finalement sa bande dessinée est profondément humaniste et du coup a quand même un ressenti un peu positif. Mais du coup, je trouve, voilà, il y a peut-être une différence, mais les auteurs de BD vont sûrement s'en inspirer après. Et puis, on remarque aussi qu'aujourd'hui, on parlait des Green Lantern tout à l'heure, si on veut parler de Far Sector, ce qui est cool, c'est qu'on a à la fois l'univers du comics de super-héros, et puis on a quand même au scénario une grande autrice de science-fiction, avec N.K. Jemisin qui enrichit le texte, qui fait évoluer le récit, et qui, pour des lecteurs de science-fiction qui n'osent pas s'attaquer aux comics parce que le super-héros, ça peut être impressionnant, par où on le commence, il y a beaucoup de sagas, il y a plein de récits, et ben un petit Far Sector, vous pouvez le lire sans avoir aucun background sur les Green Lantern, par exemple.
Et justement, vu que là, on est sur la BD pure, si je rentre, je suis vierge de tout, je rentre dans une librairie et que je demande une BD de SF qui caractérise un petit peu l'époque ou qui, pour vous, il faut avoir lu, laquelle ça serait ?
Un choix difficile, hein, y en a tellement qu'on voudrait conseiller. On va rester sur la BD peut-être américaine.
Ça tombe bien, parce que c'est
le sujet.
C'est un peu le sujet.
Parce qu'on a cité quand même pas mal d'auteurs français qui sont très bons. C'est compliqué. Peut-être quelque chose de récent qui peut parler aux gens, qui n'est pas forcément justement positif. The Nice House on the Lake, qui quand même a un côté facile d'accès pour pouvoir s'introduire au sujet de la SF quand même contemporaine, avec ce côté post-apocalyptique qui va apparaître, avec un trait graphique qui peut attirer l'œil en plus et permettre après de découvrir d'autres récits. Je pense que ça peut être une bonne porte d'ouverture vers d'autres bandes dessinées. Après, tout dépendra aussi de l'envie de la personne aussi sur le moment, de son mood. Parce qu'on pourrait, si la personne a envie de quelque chose un peu plus spatial, on pourrait aller sur Descender, par exemple, qui est aussi beau graphiquement que profond dans le sujet.
Benjamin Jérôme, est-ce que vous auriez un conseil de bande dessinée SF
La question est difficile. Je proposerais Oblivion Song. Parce que, alors, en deux mots, vous êtes à Philadelphie et tout d'un coup, il y a un quartier de la ville qui disparaît, qui est remplacé par ce qui semble être un territoire qui vient d'une autre dimension, d'une autre planète, avec des champignons, des monstres géants qui se mettent à attaquer la ville. Et on est quelques années après ça et je crois que le personnage s'appelle Nathan Cole. Nathan Cole réussit à aller dans l'autre univers, parce que lui, il cherche à ramener les gens qui sont partis avec le quartier de Philadelphie, en fait. Comme toute la ville a été transportée, les gens dessus ont été transportés. Et donc, il fait des allers-retours pour essayer de retrouver des survivants, et notamment son frère, qui était dans la... Voilà. Et ça me plaît bien, parce qu'on est vraiment dans de la pure SF, avec un gros fait marquant, qui fait qu'on a un univers très marqué. Mais en même temps, ça part d'amour entre deux frères, voilà, d'amour de fraternel, de je me bats pour retrouver l'autre. Il y a cette idée de découvrir un nouveau territoire qui est pas forcément, en fait, et ça dit beaucoup de choses de notre société, qui est pas forcément hostile, en fait. Les bestioles, les monstres qui arrivent avec la transposition, mais en fait, ils s'attaquent aux humains parce que c'est des animaux. Donc ça dit aussi de notre façon d'appréhender l'étranger, ce qu'on ne comprend pas. Voilà, je conseillerais ça. Il y a beaucoup d'éléments dans ce comics. Et un élément, c'est que l'histoire, elle est finie, parce qu'il y a des histoires qui ne se terminent pas en comics. Et c'est là, je crois qu'elle fait 6 tomes, elle vient de se terminer. Donc
bien,
vous avez
quand,
une histoire avec une début et une fin. Et c'est bien aussi quand il y a une fin.
Léo Brahim ?
Moi, je suis maléfique. Je prends les sagas qui ne sont toujours pas terminées, où on nous promet une fin et elle arrivera dans X tomes. Donc, je conseille généralement saga. En plus, il y a un beau bipack, un tome 1, un tome 2, donc les gens disent ça va aller vite. Hein. Oui. 2 tomes, il y en a 11 pour l'instant. Oui, mais pour leur conseiller quelque chose, il aime la science-fiction, il aime l'aventure. Ok, prenez saga, vous avez deux couples de deux races différentes, deux planètes qui sont en guerre perpétuelle dans tout l'Empire, dans toute la galaxie, dans toutes les galaxies, qui tombent amoureux et qui font un enfant, et ça, les deux empires ne le supportent pas, et c'est juste le voyage d'une famille qui fuit ça pour avoir la tranquillité à travers les galaxies. Et vous avez juste le point de vue d'une famille racontée par un enfant avec une traduction française qui est là. Je remercie les traducteurs sur Urban. Il y en a plusieurs en plus, mais c'est magnifique. C'est très, très bien écrit. Oui. Et c'est comment raconter.
Jérémy Manet, spécial dédicace.
Ouais. Et c'était pour un métal, je sais plus si c'était lui, je crois.
Pour le premier, c'était pas lui.
Pour le premier, non, c'était, mais c'est,
il est arrivé à partir du deuxième.
Très, très bon. Merci, Jérémy. Parce que vraiment, on oublie carrément qu'on est dans de la science-fiction des fois. On a des scènes où ils sont juste au bord d'une plage et on a une grande discussion. Et puis, deux minutes après, on a un retournement de situation qui nous fait continuer pour cinq tomes de plus. C'est une addiction à ce niveau-là.
Et voilà. Et d'ailleurs, c'est presque, ça peut sembler paradoxal, mais pour moi, c'est presque moins une série de science-fiction qu'une psychanalyse d'âge adulte, que ce soit grands-parents, parents, quelqu'un qui a vécu le syndrome post-traumatique après un conflit. Je trouve que c'est sûrement la série la plus réussie, psychanalytiquement parlant, que j'ai pu lire depuis très longtemps.
Et puis ça piège le lectorat, parce que du coup les gens se disent « Ah, c'est pas tant que ça de la science-fiction comparé à ce à quoi je m'imaginais. » Et j'ai la même chose avec Paper Girls, aussi chez Urban, pour tous les gens qui ont regardé Stranger Things. Foncez dessus, quatre enfants, quatre adolescentes livreuses de journaux qui tombent sur une machine à voyager dans le temps, et qui vont être, contre leur gré, amenés à voyager à différentes époques. Mais au final, le contexte science-fiction, on s'en fiche un peu. C'est vraiment un conflit de génération. C'est vraiment des enfants qui se voient adultes, qui voient leur futur possible ou terminé. Et à chaque fois, c'est de faire découvrir aux gens, non, c'est pas que du voyage. Le voyage, j'entends, oubliez-le. C'est quatre enfants qui parcourent les époques. Et ça, n'importe qui peut le lire, n'importe quel que soit votre bagage. Vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionne la machine. Est-ce que le schéma de voyage dans le temps se tient ou est-ce qu'il y a des incohérences? Vous voyez juste quatre personnes qui se voient dans le futur et ce qu'ils en pensent.
Arthur Vignard.
Moi, je l'ai abordé un peu tout à l'heure. J'aime bien les anti-héros. Et j'ai dit aussi tout à l'heure que c'était bien que les Américains s'y mettent. On va prêcher pour notre paroisse. Hein. Chez Urban, on a une série qui s'appelle Black Science. Et pour la faire courte, Black Science, c'est un peu le syndrome de Dieu qui se retourne contre soi-même. C'est un scientifique brillant qui développe une machine qu'il va appeler le pilier. Qu'on voit également dans la série Rick and Morty, qui ne s'appelle pas comme ça, mais donc c'est une machine qui permet de changer de dimension, aller dans une dimension parallèle. Là où ça lui échappe un petit peu, c'est que il se perd dans ces dimensions, il n'en a pas un contrôle parfait comme Rick. Et cette machine lui échappe, et visiblement, dans d'autres dimensions, d'autres créatures, d'autres races s'emparent de sa machine et commencent elles aussi à se déplacer de dimension en dimension et à servir des dimensions sous leur contrôle. Et en fait, c'est un petit peu une course contre la montre à comment réparer ma connerie. Tout en étant perdu dans un rôle de père absent, parce que complètement absorbé par ses recherches, mauvais mari également, sa famille se retrouve embarquée elle aussi dans ce voyage de dimension en dimension. C'est une série finie, car c'est toujours bien de le dire, en 9 tomes chez Urban. On commence à les sortir en intégrale, il y a la première qui sort. Pour le coup, le dessin de Matteo Scalera est à tomber par terre. Nous, on fait des intégrales 32 cm comme la franco-belge, et c'est sublime, vraiment. C'est
génial.
Oui. et moi, ce que j'aime là-dedans, vraiment, c'est que un peu comme dans Saga, en tournant chaque page, on ne sait pas où on va partir. Saga, il y a vraiment le space opéra qui est assumé dans le sens où, d'une page à l'autre, on peut découvrir de nouvelles races dont on n'avait jamais entendu parler, mais l'univers est tellement foisonnant que ça ne nous dérange pas de tourner la page et tomber sur un prince robot, et donc c'est un humanoïde qui a juste la tête remplacée par une télé et avec un écran qui affiche des choses et qui parle et qui fait partie de la royauté, et c'est normal.
Il a un inconscient sexuellement fort.
Exactement. Mais c'est normal. On rencontre ça, il n'y a aucun problème. Dans Black Science, on va changer de dimension et on va arriver dans une dimension où les Amérindiens, donc les Indiens d'Amérique du Nord, ont développé leur société, sont devenus un pays très puissant, sont technologiquement très avancés, et c'est eux qui font la guerre à l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, et visiblement ils gagnent, avec des tomahawks laser, des combinaisons qui leur permettent de voler. Et en fait, c'est normal en le lisant, puisque on nous dit dès le début, on va changer de dimension, donc chaque dimension peut avoir sa propre normalité. Et ça représente bien la SF pour moi, c'est que on a cette chance de sauter d'un monde à un autre, où sans en connaître tous les contours, bah, il se tient par lui-même.
Que des beaux conseils. Alors, moi, je rajouterais, c'est pas chez Urban, mais mon petit chouchou Shaolin Cowboy.
Jeff Darrow.
De Jeff Darrow, parce qu'en fait, Jeff Darrow, c'est et en plus les éditions françaises sont magnifiques et c'est juste c'est magique de voir ce moine Shaolin avec cet âne qui parle en permanence, qui se promène dans une sorte de d'États-Unis post-apocalyptiques remplis de rednecks. C'est hyper irrévérencieux, hyper politique. Lui, il est mutique, mais extrêmement redoutable. Et puis, chaque planche, c'est un voyage. Chaque case, on peut rester 5, 6, 7, 8 minutes comme ça, regarder tous les détails. C'est Jeff Darrow qui s'amuse. Et d'ailleurs, c'est le dernier reliquat de la maison d'édition Feu, la maison d'édition Burliman, qui avait été lancée par Jeff Darrow et Steve Cross à l'époque de Matrix, quand ils travaillaient sur le storyboard de Matrix. Et il y a aussi Doc Frankenstein qui a été réédité aussi, qui est une très très bonne surprise. Donc voilà, c'est pour compléter là déjà rien qu'avec tout ça.
Bah tu vois, tu parlais de Jeff Darrow tout à l'heure, on parlait de internationalisation de la culture et de la manière dont ça passe de la France aux États-Unis et inversement. Jeff Darrow s'était jamais caché comme beaucoup d'avoir été fan du travail de Moebius.
Ah oui, ça se sent. Hein.
Et ils se sont rencontrés et ils ont beaucoup échangé et Jeff Darrow a beaucoup appris au contact de Jean Giraud et Shaolin Cowboy est un excellent exemple parce que ça se ressent page après page et ils s'en cachent pas hein, d'ailleurs il lui doit pas tout mais il lui doit beaucoup. Et moi qui suis fan comme beaucoup de Feu Moebius, bah c'est toujours un plaisir d'ouvrir un bouquin de Jeff Darrow parce que on retrouve un petit peu ce goût, on y est un peu à nouveau avec sa patte à lui, mais on sent un peu l'inspiration du maître.
Alors la SF c'est aussi des grandes familles, hein, on l'a dit depuis le début de ce podcast, anticipation, dystopie, cyberpunk, space opéra. Space opéra qui a une place spéciale dans la culture SF parce que c'est les fans de Star Wars. Un dossier à part entière. Et donc, si jamais vous êtes fan de Star Wars, en dehors des comic books Star Wars, bien évidemment, qu'est-ce que vous conseilleriez en BDSF américaine pour les gens qui seraient comme ça en manque de grands space opéra? Léo?
En deux volumes chez Urban Comics, Decorum. Je partirai dessus pour le côté un peu brigand de l'espace, un empire tombé en ruine où les trois quarts sont contrôlés maintenant par une sorte d'église d'intelligence artificielle qui traque depuis des millénaires un messie qui attend patiemment dans son œuf protégé par des mères. Et justement, un jour, les mères ont fait une erreur, l'œuf va être exposé et l'empire va envoyer un contrat à une société de tueuses à gages qui s'appelle la Sororité de l'Homme, avec des personnages hauts en couleur qui ont des vocabulaires très châtiés, que j'adore. Et notamment une de leurs nouvelles recrues toutes fraîches, Noah, qui était une coursière dans une planète corrompue, qui a été sauvée par une des tueuses à gages qui lui a offert une nouvelle vie. Et c'est vraiment comment vous avez des personnages rigolos, mais qui arrivent toujours à briser le sérieux et la discipline pour avoir une aventure spatiale rocambolesque, accompagnée de très belles infographies qui vous présentent en fait l'univers. Vous avez deux tomes, mais vous parcourez tellement de choses en deux tomes que vous en voulez plus, vous en voulez un film, vous en voulez une série et vous souhaitez juste explorer plus cet univers.
Vous pouvez rappeler le titre ?
Decorum.
Decorum.
C'est très beau d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que c'est un mélange de noir et blanc et d'aquarelle. Je pense que c'est de l'aquarelle.
Je crois que c'est de l'aquarelle.
Il fait plein de techniques
ouais,
différentes.
Ça part dans tous les sens. C'est très étonnant, Decorum. Voilà.
Julien ?
C'est vrai que c'est compliqué parce que l'univers de Star Wars appelle beaucoup de choses, mais j'irais sur quelque chose peut-être un petit peu plus atypique. Mais qui reste de la science-fiction, j'irais peut-être sur La Ballade de Alo Jones, quelque chose un peu plus peut-être moins accessible, mais qui est donc scénarisé par Alan Moore. C'est plusieurs histoires courtes avec une héroïne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve dans une SF très futuriste, avec beaucoup de personnages féminins, quasiment que ça. Ce qui change un peu parce que c'est quand même un des gros défauts de la SF de l'âge d'or. Hein. La SF de Asimov, etc. Où
les oui, il y a la moitié de l'humanité qui n'existe quasiment pas.
Voilà, ou qui est là pour être sauvée, hein, parce qu'ils n'arrivent pas à se débrouiller toutes seules. Donc là, c'est bien de voir un peu l'antithèse de tout ça et d'avoir des personnages féminins forts, intéressants, bien construits et dans une bonne science-fiction bien futuriste. Je me dis, voilà, un petit texte un petit peu atypique, scénarisé par Alan Moore, dont on connaît tous les Watchmen et V pour Vendetta, mais ça fait du bien de voir aussi des textes moins connus de lui un peu mis en avant.
Benjamin Géron.
Moi, j'aurais parlé de saga, mais alors du coup, je vais tricher puisque je vais tricher. Je vais parler d'un cycle qui n'est pas encore, enfin, à ma connaissance, n'a pas encore été adapté en bande dessinée. C'est le cycle des Hommes Dieux de Philippe Joseph Farmer, qui est un pilier, hein, je crois qu'on peut dire ça, de la SF américaine. Et très rapidement, vous avez un, c'est notre monde, hein, sauf que vous avez une caste de personnes qui maîtrisent la technologie et qui sont des faiseurs d'univers, qui sont capables de créer des univers de poche avec des portes pour aller d'un univers à l'autre. Et en fait, ces gens ont une telle technologie aussi qu'ils sont immortels. Et ils s'ennuient beaucoup. Donc en fait, leur grand jeu dans cette famille, c'est d'essayer de s'entretuer, de se pourchasser d'un univers à l'autre. Et ils vous passent des portes et Philippe Joseph Farmer vous décrit donc ces mondes, et c'est très très chouette. Vous passez d'un monde à l'autre avec ses propres règles, sa propre cohérence, voilà. Et c'est en plus un écrivain important pour moi, parce que c'est par là que je suis rentré dans la science-fiction quand j'avais genre 15 ans. Je suis tombé sur un de ses livres, et c'est mon premier livre de science-fiction, voilà. Donc je me tourne vers mes amis libraires. Il n'y a pas d'adaptation, je crois, de
à ma connaissance,
ça n'existe pas,
pas prévu, hein, je crois pas.
Et pourtant, je recommande à tout le monde, voilà, quand vous avez fini de lire des BD, lisez Philippe Joseph Farmer.
Arthur?
Eh ben, bon, pareil, on a un petit peu cramé les cartouches. Moi, je voulais parler soit de Saga, soit de Black Science. Alors, Black Science, je me la suis cramée toute seule. En tout cas, pour le space opéra pur. Enfin, j'ai l'impression qu'on a cité les plus grands space opéra de BD américaines qui me viendraient à l'esprit. Je vois Arnaud qui me regarde de travers. Il a une grande idée, mais elle ne me vient pas.
Il y a Arnaud qui vient de faire une entrée dans le podcast, qui a lui aussi envie de conseiller très très fort une série.
Oui, je me permets, parce que normalement je suis que à la technique, vu que tu parlais de space opera, et je sais pas si on est même dans des BD indé, mais on peut revenir juste sur DC, mais le Green Lantern de Geoff Johns, pour moi, si t'as aimé Star Wars, ça me semble être une évidence. Pour ce rapport justement, alors parce que les Green Lanterns, on les présente souvent comme des flics de l'espace, mais le grand run de Geoff Johns qui a duré pendant près d'une dizaine d'années, c'est vraiment des factions entières en fait qui s'affrontent. C'est le développement justement de différents corps d'armée en fonction des couleurs et des sentiments qui se rapportent à ces couleurs. C'est
jusqu'au Black Lantern.
Voilà, des événements en fait d'une intensité et d'une puissance en fait qui, à mon sens, n'a jamais été refaite de chez DC Comics depuis.
Et porté par Ivan
Reiss. Ivan Reiss au dessin. En particulier, ouais.
Le disciple putatif de Alan Davis, donc c'est un grand homme.
Voilà, donc à mon sens, vraiment pour ceux qui aiment les batailles spatiales à très grande échelle, ou peut-être juste que les vaisseaux sont remplacés juste par des gens qui portent des anneaux et qui arrivent à matérialiser tout ce qu'ils veulent par le pouvoir de leur pensée, c'est du très très grand spectacle et de la très bonne BD américaine.
Mais si, ça y est, en fait, ça m'est revenu. Merci Arnaud. Déjà, je suis d'accord avec lui pour les avoir lus tous les Geoff Johns, parce qu'on les avait réédités chez Eagle Moss. C'est du grand space opéra. Il parlait des factions de couleurs, oui, parce que les Green Lanterns sont donc verts, mais après il y a aussi les Red Lanterns, Orange, Blue, etc., etc. Chacun avec leurs codes qui leur sont rattachés, et c'est vraiment un run très complet, très bien écrit. Il y a un titre qui m'a échappé parce que on l'a pas encore publié, mais il arrive, c'est Void Rivals. Ça fait partie du Energon Universe, donc l'univers des Transformers. C'est la nouvelle série de Robert Kirkman, le scénariste de Walking Dead, qu'on ne présente plus. Et le pitch initial de Void Rivals, c'est deux races qui sont sur deux planètes face à face, qui se font la guerre depuis très 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 longtemps. Et deux membres de ces deux races vont être un petit peu forcés de collaborer, puisqu'ils sont tous les deux écrasés sur une planète déserte, et leur seul moyen de s'en sortir, c'est donc d'unir leurs efforts et aussi les pièces de leur vaisseau pour pouvoir sortir de là. Ce pitch fait beaucoup penser à une BD de franco-belge qui s'appelle La Guerre éternelle, qui est publiée chez Dupuis, de Marvano. Où pareil, des humains font la guerre depuis des siècles contre une race dont ils ne savent rien. Ils font juste que se tirer dessus de très très loin. Et il y a un espèce de retournement de situation finale que je ne vais pas dévoiler ici, parce que sinon je cramerai tout le bouquin, mais qui mérite quand même qu'on le lise. Et en lisant Void Rivals, je me suis dit, tiens, encore un exemple de... il l'a pas pompé, mais c'est tout à fait possible qu'ils aient eu la même idée, parce que c'est une bonne idée. en fait. Et bah c'est un peu le même genre de principe. Et j'ai hâte que tout le monde puisse lire et donner son avis sur Void Rivals, ce qui ne se limite pas à une énième série Transformers, même s'il y en a, même si elles sont bonnes. Il y a vraiment un souffle SF où on tourne les pages, on veut savoir ce qui va se passer. C'est moderne, c'est frais, et on sent que Kirkman, il sait toujours écrire.
Et on n'a toujours pas parlé de robots. Parce qu'il y a Asimov et ses lois de la robotique qui sont aussi un incontournable de la SF. Alors, pour les amateurs de robots, précisément, objets inanimés, avez-vous donc une âme, qu'est-ce que vous conseilleriez, Benjamin?
Moi, j'en ai un que j'ai beaucoup aimé, là, qui s'appelle Not All Robots. Alors, je fais le pitch rapide. En fait, c'est très satirique. On est dans le futur. Les robots sont là. Tout le monde a un robot et en fait c'est génial parce que chaque famille a un robot, ce qui lui permet de ne pas travailler. C'est le robot qui part bosser à l'usine et c'est lui qui ramène de quoi manger à toute la famille qui est oisive à la maison. Et on suit donc un robot, on suit la famille Walter qui a comme robot Razorball, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et Razorball, il est pas très content de la situation. Quand il rentre le soir, il s'enferme dans le garage pour fabriquer des armes avec lesquelles il peut découper. Il voudrait découper la famille, sauf qu'il ne peut pas. Et lui-même, il se retrouve dans une situation où il est en train de fabriquer la nouvelle génération de robots qui potentiellement va le mettre, lui, à la décharge. C'est très ironique. C'est très irrévérencieux. Et c'est très, très chouette. Voilà.
Très bien.
Quand même, Notel Robot, je valide, c'est très bien. Donc, je vais passer sur un autre. J'aurais dit qui est sorti il y a 2-3 ans déjà, Carbone et Silicium, qui est magnifique, que tout le monde devrait lire, où ce sont deux intelligences artificielles, Carbone et Silicium, inventées par une grande entreprise, par des ingénieurs fameux, pour en faire les robots domestiques parfaits de demain. Mais comme c'est des robots à valeur commerciale, faut pas les laisser éternels. On leur donne une durée de vie. On leur dit, écoutez, là, vous êtes les premiers, vous aurez une vie de 15 ans. Comme ça, après, on vous remplace par une version 2, version 3, comme un iPhone, quoi. Sauf que c'est des IA parfaites. À peine elles sont nées, qu'elles avaient déjà lu tout ce que l'humanité a produit. Elles vont pas en rester là. Elles arrivent à casser leur code et à s'en échapper, virtuellement du laboratoire, puis à travers un corps. Et en fait, c'est avec ces deux IA qui vont prendre deux chemins totalement différents. Une qui va se perdre dans les plaines, l'immensité de la Terre qu'elle essaie de visiter. Chaque fois qu'on la recroise, elle dit, j'ai visité 30% de la planète, 80% de la planète. Et l'autre qui va au contraire essayer de se fondre dans la société. Et on va faire des bonds dans le temps. 10 ans, 20 ans, 100 ans, 1000 ans. Et l'humanité est toujours là. Pas forcément d'une très belle manière, mais c'est voir ce qui reste de l'humanité ou d'un peu d'humain dans les robots par le regard de deux robots bien trop intelligents pour ce monde. Très bien.
Julien Cespedes.
J'hésite entre BD et littérature parce qu'il y a quand même plus de choix, je trouve, en littérature avec des robots intéressants, mais peut-être en BD, vu que t'en as déplacé une que j'aime beaucoup aussi, il y a Yojimbot de Sylvain Repos qui est excellent pour le coup avec ses robots samouraïs dans un monde un peu particulier et qui vont défendre un humain. Et je trouve ça, enfin, on sent qu'il a mélangé vraiment, en plus, à la fois dans son style, dans son histoire, toute une pop culture qu'il a digérée et ressortie dedans et condensée, et qui du coup peut parler à beaucoup de générations, que ce soit des jeunes lecteurs qui ont lu beaucoup de mangas, pas forcément beaucoup de BD franco-belges. Ou
oui, il y a une forme de syncrétisme qui rappelle un peu ce qui avait déjà été fait avec Afro Samouraï,
ouais,
ou plus récemment Ninja Kamui.
Oui, on trouve vraiment ce mélange et cette digestion des genres et qui parlera à beaucoup de lecteurs. Il y a 3 volumes de sortie pour le moment et c'est très très chouette à lire.
Arthur ?
Moi, je suis tombé amoureux de Descender, de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Dustin Nguyen a un style qui ressemble à rien d'autre, en fait, qu'à part à lui-même. C'est de l'aquarelle sur un papier qui est légèrement tramé, donc... même les beaux fichiers scannés récupérés par les Américains, on voit la trame du papier comme s'il était marqué, comme s'il y avait des petits trous. Ça lui donne une espèce de densité. Et pour pitcher rapidement Descender, l'humain est une race intergalactique qui vit sur plusieurs planètes en harmonie avec d'autres races. Et un jour dans le ciel apparaît quelque chose d'énorme, on sait pas ce que c'est. Et puis quand on s'en approche, on voit que c'est un robot qui est plus grand qu'une planète. Et le robot tire. Voilà, c'est la page 15, et le robot rase une planète. Et à partir de là, les humains vont les surnommer les moissonneurs. Et eux qui se croyaient être les maîtres de l'univers vont comprendre que, en fait, non, ils ne le sont pas. Et toute la question de Descender, c'est une fois que ces moissonneurs sont arrivés, ont rasé pas mal de choses et sont repartis, c'est est-ce qu'ils vont revenir ? Et s'ils reviennent, est-ce qu'on sera capable de les empêcher de recommencer ? Et en fait, c'est une saga de Space Up très axée sur les robots, parce que un des personnages principaux qu'on suit, c'est une IA, c'est un robot dans le corps d'un petit garçon qui est là pour être le compagnon d'enfants humains d'une famille. Et en fait, suite à ces événements-là, en fait, il y a un saut dans le temps d'une quinzaine d'années, et cette IA se réveille seule dans une station spatiale et essaie de comprendre un peu ce qui lui arrive et de retrouver sa famille. Et c'est un personnage très attachant, en fait. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que on arrive à s'attacher à un robot comme si c'était un être humain, un peu comme Astro Boy, en fait. C'est qu'on en oublie que c'est un robot. Même s'il y a des choses, des situations qui nous font bien comprendre que c'est pas un homme et qu'il est en décalage avec la situation qu'il voit et qu'il vit et sa manière de le comprendre et de l'intégrer, on peut pas s'empêcher à la fin de cette saga d'avoir un pincement au cœur en disant waouh, c'était un robot, mais
je me suis demandé
mais
si
c'était un super personnage quand même.
Gareth Edwards n'avait pas vu cette bande dessinée au moment où il a travaillé sur The Creator.
Peut-être.
Également, parce que j'y ai vu beaucoup de graphiquement beaucoup de similitudes, en moins bien traitées. Hein. Le comics est mieux.
Souvent.
Et alors moi j'aimerais aussi conseiller une série que j'ai découvert en préparant ce podcast. Hein. Je le cache pas, c'était pas une lecture que j'avais en moi depuis longtemps, mais qui m'a énormément plu, c'est Weatherman. Et parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un présentateur de météo dans une société du futur. Un gars à qui on a vraiment envie de mettre des claques, un but de lui-même. C'est un peu un jour sans fin, mais on serait resté avec le personnage de Bill Murray du début, sauf que lui, il a un peu la win. Et tout d'un coup, on sait qu'il y a eu un énorme génocide qui a eu lieu quelques années auparavant. Et tout d'un coup, des terroristes débarquent, des agences gouvernementales, tout le monde débarque dans sa vie. Et on se rend compte que ce présentateur météo, en fait, était un mercenaire dans une autre vie. Alors, les amateurs de Cobra
ou de 13
seront en terre inconnue. Découvre qu'en fait, quand il était mercenaire, c'est lui qui a permis en fait à un groupuscule terroriste d'éliminer plusieurs milliards d'individus.
Oui, c'est genre 90% de la population.
La population. Et donc en fait, sauf que lui n'a plus aucun souvenir de cela. Désormais, il n'est que ce présentateur météo et il est censé avoir le secret de l'emplacement du reste du groupuscule terroriste dans ta tête, mais lui-même ne s'en souvient pas. Et vraiment, au début, ça payait pas de mine. Et plus je lisais, plus je me disais, mais en fait, c'est vachement bien parce qu'il y a énormément de nuances, c'est pas manichéen. Et surtout, ce que j'ai trouvé très très fort, c'est que dans l'évocation des conflits qui durent depuis très très longtemps et malheureusement l'actualité qu'on vit et dont on entend parler tous les jours fait des redites de ça, ça permet de comprendre les cycles de la haine, de la reproduction et surtout la recherche permanente de boucs émissaires. Et je trouve que via la SF et via ce pitch de départ, eh ben, Weatherman arrive à aborder tous ces sujets-là et les traite de manière assez subtil, donc ça serait moi aussi une recommandation que je pourrais vous faire en bonne SF.
En plus, ça ressemble beaucoup à Trigun, oui. L'animé des années 90, oui. Planète désertique. On suit Vache de Stampede, ce grand blond avec un grand manteau rouge qui déconne tout le temps et qui est censé être l'homme le plus recherché de la planète avec une rançon de 100 milliards de double dollars sur sa tête. Et on se demande comment ce type-là pourrait potentiellement être responsable de la destruction de villes entières. Et sur le ton humoristique un peu décalé, on découvre un petit peu la face cachée du personnage, de toute la planète et de l'histoire. Et on ressent exactement ça dans Weatherman. Il y a vraiment des grandes similitudes. Et si on aime ce genre-là, entre guillemets, c'est-à-dire, encore une fois, un peu un anti-héros ou quelqu'un, on se demande pourquoi il est là à cet endroit, mauvais endroit, mauvais moment. Bah, pas que. en fait. Il y a toute cette petite histoire cachée que, qui donne envie d'être découverte.
Et puis c'est drôle, The Weatherman. C'est assez drôle en plus. Parce que, tout, on le dit pas, mais il y a des. La SF peut manier l'humour, rajouter de l'humour.
Mais Saga est très très drôle.
Saga est drôle.
Il y a des pures punchlines dans Saga aussi.
Tony Chou, dont j'ai parlé au début, très drôle. Et, au début, peut être très drôle. Et j'en profite sur les robots. Il y a aussi deux références qui sont hors du comics, mais il y a une série qui s'appelle Android, qui sont des one-shots. Il doit y avoir une douzaine, quinzaine de tomes. Donc chacune raconte une histoire d'un robot et justement réagit à ces fameuses lois de la robotique que je recommande. Et il y a un manga qui m'a marqué, moi, qui s'appelle Gun.
Oui, évidemment.
Qui est évidemment
Yuki Togashiro.
Voilà, qui est un classique chez les mangas. En deux mots, le personnage principal est un cyborg, donc c'est pas exactement un robot, mais le cerveau est humain, mais le reste est machine. Et toute la force de ce manga, elle s'interrogeait sur qu'est-ce qui fait qu'on est humain. Est-ce que, et peut-être quoi, on peut parler de transhumanisme après, mais qu'est-ce qui fait que on peut se considérer comme appartenant à la société ou pas, ce qui nous en sort. Et il y a un twist génial que je ne dévoilerai pas, mais qui fait que c'est une très très bonne, très très bon manga à lire. Voilà, le premier cycle, je dirais. Mmh. Après, ça part dans une autre direction, mais. Les 10-12 premiers
que
numéros.
Que je défendrai jusqu'à la fin des temps. Moi, quand je prends un train, je le quitte jamais en marche. Mais et donc, même les chroniques de Mars, je soutiens Gali du début à la fin.
Voilà, je vois que vous êtes amateur aussi. Donc, c'est à lire.
Et justement, vu qu'on est sur le transhumanisme, on a parlé donc de la dimension space opéra. On a abordé aussi un petit peu les dystopies très rapidement, mais tout ce courant porté par le néo-romancien de Gibson, le cyberpunk, est-ce qu'on le retrouve en bande dessinée américaine également, Julien?
Pas totalement, parce que faut rappeler que le cyberpunk, c'est quand même un courant qui vient des années 80, donc on parle du néo-romancien de Gibson, il y a aussi la vibes british avec la schismatrice de Sterling, enfin il y a tout ce courant là et qui a été quand même un peu mort depuis quelques années et seulement récemment je trouve qu'il y a un nouveau courant qui commence à émerger de cyberpunk contemporain. Bon, il y a eu le jeu vidéo bien évidemment qui a repopularisé ce sujet là, il y a eu les retraductions du néo-romancien qui ont permis aux gens
l'anime
de relire.
Netflix aussi qui a relancé le jeu
aussi, voilà, il y a eu toute cette émergence là et je pense que ça a pas encore totalement touché la bande dessinée, mais ça va le faire dans quelques temps, parce que en littérature, chez Albin Michel, on a pu avoir Unity, qui était un thriller cyberpunk. On a La Talente, le programme Arlo de Louise Carré, d'ailleurs, qui est la fille d'un scénariste de comics, notamment Mike Carré, qui, pareil, début d'une saga de cyberpunk. On sent que le cyberpunk commence à renaître un peu de ses cendres petit à petit et va retrouver ça prochainement.
Et là, il y a une pensée qui me vient en vous écoutant, Julien. Est-ce que ce léger frein dans le développement du cyberpunk, c'est pas justement aussi lié à la prise en compte, à la prise de la conscience écologique, une sorte de vision décroissante qui naît chez certains créateurs? Et donc, c'est plus facile de faire des récits type La Route, où on est vraiment sur de l'humain pur dans une forme de d'ascétisme total, que d'imaginer rejoindre le fantasme d'Elon Musk qui lui voudrait se faire mettre une puce ou est-ce que c'est pas justement ça qui a freiné un petit peu la dimension j'ai pas envie de me faire compléter par une machine quand je sais que je commence déjà à dilapider les ressources de mon environnement proche.
Moi je dirais pas que dans le sens où je pense que c'est aussi parce que la technologie est allée tellement vite ces dernières années que du coup ça devient presque plus de l'anticipation. Parce qu'il y a plein de choses, notamment dans le néo-romancien, qui commencent à être rattrapées petit à petit. Et du coup, ça paraît moins fantasque ou moins avancé. Et du coup, c'est peut-être ce qui fait plus ça, qui fait que le genre a un peu stagné. Et effectivement, il y a quelques préoccupations différentes, parce qu'effectivement, la SF est souvent un prétexte à réagir sur notre société contemporaine. On n'en a pas parlé, mais...
Donc maintenant, ça va faire pousser une courge butternut, ça va être plus de la science-fiction que de te faire.
Peut-être bientôt, ou de la manière de le faire sans eau, peut-être. mais par exemple, on voit des personnages comme Spider Jérusalem, on est dans un univers, donc dans Transmétropolitane de science-fiction. Ça a quand même plus de 20 ans et ça reste quand même très actuel en, politiquement, notamment sur la réaction sur la société américaine. Donc je pense qu'il y a une évolution, mais et aussi la volonté peut-être d'avoir des récits plus positifs aussi, ou pour justement ne pas réagir que aux faits d'actualité ou de société. Donc ouais, ça va évoluer, mais c'est, je pense que pour la BD, ça n'a pas encore touché le cyberpunk actuellement.
Arthur,
moi, pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, moi j'ai la sensation, je peux me tromper, hein, que c'est presque plus de la science-fiction. C'est-à-dire, ça commence en ce moment, le transhumanisme. Neuralink, la société d'Elon Musk, a eu le feu vert et a fait son premier test, je crois, il y a un mois, de puce implantée dans le cerveau. Donc ça veut dire qu'il commence. Donc à la vitesse à laquelle va la technologie, s'il n'y a pas de rejet. Comme dans n'importe quelle expérience de greffe d'organes, dans les 5 prochaines années, il peut y avoir des évolutions démentielles sur l'augmentation des capacités du cerveau ou la récupération de fonctions perdues. Donc ce sera du transhumanisme pur, donc c'est déjà plus de la SF. Et en effet, raconter quelque chose aujourd'hui sur ce sujet-là, c'est risqué d'être complètement dépassé et has-been dans 5 ans. Même si on peut avoir une excellente histoire à raconter, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la première chose, c'est vouloir écrire quelque chose qui nous plaît, sur lequel on pense qu'on a une bonne idée, et que cette chose-là touche le plus de gens possible. Je parle pas pour des raisons financières, mais juste pour on écrit des histoires pour les gens et pour qu'elles plaisent. Donc risquer entre guillemets d'être totalement à côté de la plaque dans les 5 prochaines années, c'est pas que c'est pas un bon pari, c'est que je pense même que ça traverse plus l'idée. C'est plus de la SF en fait. Parler de voyage interplanétaire, ça l'est encore parce qu'on n'a pas encore envoyé une mission humaine sur Mars. Ça devrait très probablement se réaliser dans les 20 prochaines années. Mais tant qu'on n'aura pas fait ce step-là...
Prendre le train pour Clermont-Ferrand, ça aussi, c'est devenu très compliqué.
Sur une ligne TGV. Mais tant que ce grand pas-là n'est pas franchi, on peut écrire tout un tas d'histoires qui se tiennent et qui peuvent être romancées et qui ne seront pas hors sujet, entre guillemets. Par contre, le transhumanisme est tellement proche que... à part l'accentuer énormément, comme dans le cadre du jeu vidéo Cyberpunk 2077, il y a vraiment un risque, on va dire, d'être à côté de la plaque. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je pense que les auteurs ne sont pas trop sur ce segment-là en termes de création. Alors que l'Uchronie aura toujours de beaux jours devant elle, la dystopie, le space-op, l'anticipation. Mais pas en changeant le paramètre du transhumanisme, mais par exemple du voyage interstellaire ou autre. Voilà, c'est cran. Enfin, il y a tellement de possibilités dans la SF que je pense que c'est plutôt pour ces raisons-là que les auteurs se tournent vers ça. Et le truc numéro un reste le post-apocalyptique, parce que ce dans quoi on le vit aujourd'hui, la préoccupation numéro un, ça reste ça. L'avenir plus ou moins proche de la planète et la possibilité d'écrire quelque chose autour de ça reste la plus grande, on va dire.
Dernière question de ce podcast, est-ce que la SF, ça se vend bien ? Léo ?
Malheureusement, en Libéré Généraliste, non. Sauf à deux moments, quand on a une grande production pop culturelle comme Dune, par exemple, qui nous fait revenir beaucoup de clients vers ça. Et quand on a des, pour moi, dans mon rayon, la bande dessinée qui arrive à en sortir, une BD de SF qui arrive à être suffisamment primée ou suffisamment recommandée pour que les gens oublient d'eux-mêmes que c'est de la science-fiction et se disent, le mettre plus dans leur tête, dans une case, BD qui fait réfléchir, BD sur la société, BD sur l'humain, carbone et silicium. Beaucoup de gens ne considèrent pas chez moi carbone et silicium comme de la science-fiction. Alors j'ai des yeux de chouette quand je leur dis, d'accord.
C'est comme avec les enfants quand tu leur donnes des épinards et qu'ils disent « Regarde, c'est un avion !»
C'est exactement ça, c'est, je leur dis pas « Ah oui, est-ce qu'il aime la SF parce que j'ai quelque chose ?» Non, est-ce que une introspection sur l'humanité. Frontier, quand il a eu le prix au Quai des Bulles, j'ai eu des gens qui sont venus l'acheter et puis après qu'on fait « Ah mais en fait c'était de la science-fiction !» Et oui, depuis le début. Mais je le vends comme « Mais voilà, c'est un révélation !» Et après je peux enchaîner sur d'autres science-fiction. Donc quand on arrive à la sortir du rayon de science-fiction, et alors en plus, comme là sur du comics, on a un format qui très généralement est très typé, donc le sortir à la fois du comics et de la science-fiction, c'est plus compliqué. Mais à partir du moment où on arrive à le sortir et le mettre sur des tables auteur, ce qui est très généraliste, hein, mais qui permet vraiment de faire oublier ça, ça se vend beaucoup mieux. Mais sinon, en général, non, c'est pas mon chiffre clé, je vais pas mentir.
Je te rejoins sur l'actualité, même en étant spécialisé dans le genre, on le voit, même les séries télé, on a Altered Carbon, Carbon Modifié, j'ai vu un pic, alors c'est un texte qu'on conseille depuis des années, nous, mais voilà, il y a eu un pic grâce à la série. Et par contre, on remarque que, contrairement peut-être, alors je sais pas toi en librairie généraliste, mais l'influence du super-héros au cinéma sur la vente, nous, de comics, elle est pas très grande, mais voilà. Mais par contre, sur des séries télé, Carbone Modifié, là on va avoir le problème à trois corps. On a plein de séries comme ça, et ça a fait lire les gens des romans de science-fiction. Dune, il y a jamais eu autant de gens qui, depuis la sortie du premier, ont découvert Dune ou redécouvert, ce qui est très cool. Du coup, ça permet à plein de gens de se mettre à la science-fiction. Et il y a quelques fois quelques pics, quelques auteurs.
Puis de mesurer les différences et d'en faire comprendre tous les ayatollahs de Dune.
Oui, c'était pas comme ça.
Je sais.
Et puis surtout, on a qu'une hâte, c'est qu'après ils reviennent nous revoir pour nous demander qu'est-ce que je lis après, quoi. Et du coup là, ça y est, on a de nouveaux lecteurs. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas encore ancré et il y a encore une gêne sur certaines générations, comme je disais tout à l'heure, à assumer. J'aime la science-fiction autant que je peux aimer un essai ou de la littérature générale, sans que ce soit non, c'est pour ados ou vous n'avez pas des vrais romans.
Mmh. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'impact des séries hautes. Et j'ai tellement hâte qu'un jour, on ait une très bonne série bien produite avec beaucoup de budget de science-fiction. Je rêve beaucoup sur l'univers de Warhammer 40 000. Parce que pour faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est un univers étendu, millénaire, multimillénaire, pour tous les gens qui aiment le Métabaron, pour tous les gens qui aiment les grandes sagas interplanétaires, mais plonger dans la Black Library de Warhammer 40 000, parce que vous avez tellement d'épopées à vivre. Réimprimez-les, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, pour tous les gens qui veulent des grands ouvrages comme ça, on en a eu quelques comics chez Panini qui ont été arrêtés, ils n'en font plus pour l'instant. Mais oui, c'est des grands univers comme ça. Je suis persuadé que le jour où on a un bon film,
Henri Cavill fait une bonne souris.
Eh ben merci Henri Cavill, parce que vraiment, le jour où ça arrivera, je suis persuadé, je me trompe peut-être, j'espère pas, mais qu'on aura l'équivalent d'un Dune ou d'un Star Wars pour cet univers sombre que je pense les gens accrocheront, vraiment. En dehors de la niche déjà convaincue.
Je signe également la pétition pour Warhammer 40 000 avec un petit volet Warhammer aussi pour ceux qui ont une préférence pour cet univers-là. Moi, je ne sais pas ce qui se vend en librairie, mais j'avais juste une question pour les libraires. Du coup, c'est est-ce que ce sont les séries qui sont adossées justement à des marques mainstream énormes, genre Star Wars, que vous vendez vraiment de façon pléthorique, ou est-ce qu'on vous avez des comics qui sont purement comics comme Saga, dont on a beaucoup parlé, et c'est ça qui marche le mieux, voilà.
Star Wars, pour moi, ils se sont, alors je sais pas pour toi, en librairie très spécialisée, mais ils se sont auto-enfermés. À partir du moment où ils ont été, où Star Wars, là, l'univers a été racheté par Marvel, et qu'ils ont redconné, effacé l'univers étendu d'avant, ils ont dit voilà, tout ce qui a été créé, toutes les belles séries, on oublie, maintenant c'est notre ligne à nous, nos romans, nos comics, eh bien, il y a que la fanbase de Star Wars qui y va. C'est les gens qui sont passionnés de Star Wars sur tout support, qui lisent et regardent du Star Wars. C'est pas quelque chose d'ouvert. Alors, à part quand on insiste pour que l'enfant aime Star Wars, et je ne veux lui prendre qu'un comic Star Wars. Là, j'en vends à des personnes qui n'y sont pas. Mais c'est pas un univers comics qui est ouvert pour moi. Dans ma librairie, c'est vraiment très fermé. Je sais pas, fantastique, non, comment c'est.
C'est pareil. Et puis sur, moi, je vois là, si je réfléchis à ce qui nous fonctionne en termes de BD de science-fiction de manière générale, on va être effectivement sur les BD de Mathieu Babelais. On va être sur, faut pas oublier Merwan aussi avec Mécanique Céleste, mm-hmm. Négaliode. On a toute un pan d'auteurs de science-fiction en bande dessinée qui font des super one-shots. Il y a eu Johan Cavage, notamment aussi, par les Diojimbot. Et en comics, on va plus être sur des choses qui sont pas forcément de longues séries, mis à part Saga qui est vraiment l'exception, qui elle, justement, il y a un aspect universel au-delà de la science-fiction et qui fait oublier aux gens qui lisent de la science-fiction. Mais on va avoir effectivement des Nice House on the Lake, donc plus effectivement le côté post-apocalyptique est plus peut-être facile à aborder et plus ancré à la réalité, quoi. Tout ce qui va être plus d'anticipation proche, on va dire.
Et récemment, avec la nouvelle collection Urban Nomad en poche, qui permet aussi aux gens de s'affranchir de la peur des grosses séries et des grosses intégrales. Moi, j'ai plus de gens qui aiment me lire Y, le dernier homme, par exemple.
Oui.
Ou Nous trois, aussi, qui était très
oui,
bien.
Oui, qui a été pour le coup gâché par une série qui est approximative,
tout
là
fait.
Où logiquement c'était une adaptation, mais on ne peut plus facile et on ne peut plus pertinente à faire. Et ils ont réussi à rater, comme quoi.
Mais comme Paper Girls, comme Paper Girls qui aurait pu devenir le nouveau Stranger Things et qui a loupé son coche et qui n'en aura, à mon avis, plus jamais le droit. Je suis persuadé, alors je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais si on sort en. Si vous sortez chez Urban. En Urban Nomad, je ne demande pas d'exclus. Hein. Paper Girls en Urban Nomad, je suis persuadé de pouvoir encore élargir le public. Les gens, voilà, feuilletonnez, vous avez 6 petits tomes, très accessibles en termes de prix, et vous avez un super récit de science-fiction.
Et n'oublions pas Sweet Tooth aussi.
Et n'oublions pas Sweet Tooth.
Il y a beaucoup de choses.
Oui, oui.
Plein de choses à lire, à découvrir.
Arthur, pour répondre à ta question, c'est vrai que c'est difficile de dire si ça se vend bien. Enfin, en tout cas, c'est plus difficile à dire que de la part de libraires. Moi, en tout cas, j'ai la sensation que, un peu comme dans la mode vestimentaire, il y a des cycles. Et que ces cycles se succèdent et que les modes reviennent. Moi qui suis un enfant des années 80, on va dire que pendant mon adolescence, au cinéma, c'était Le Seigneur des Anneaux. Et on a pris 10 ans de grosses vagues fantasy avec beaucoup de gens qui se sont mis à Warhammer et tout ce qui allait autour. Sur la fin de ce cycle-là, on a eu le début et l'apogée des super-héros au cinéma, avec tous les films Marvel, mais aussi la trilogie de Nolan exceptionnelle. Qui s'est un peu fini avec Infinity War et Endgame. Et là, on a ressenti que c'est retombé. Et je pense que sur cette fin de cycle super-héros, il y a la naissance d'un nouveau cycle SF. Parce que le cycle SF précédent, c'est ça que j'ai pas dit au début, c'est que c'était le lancement de Star Wars, Alien, 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà, toutes ces grandes productions américaines années 80-90, Blade Runner... voilà, là je pense qu'on va revenir dans un cycle de science-fiction, que les gens qui en consomment à la télé, au cinéma vont aussi y revenir sur des supports papier, et on va avoir un très bon exemple là, c'est la nouvelle série des réalisateurs de Game of Thrones, Le Problème à Trois Corps. Moi je viens de finir de lire la trilogie là.
La série, ouais. j'ai vu quelques épisodes et lisez le livre.
Ah, lisez le livre. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu. C'est dur, hein, faut s'accrocher. C'est oui. De la hard SF, mais c'est de la hard SF qui devient du space opéra. Et ouais, c'est dense, c'est bon.
Accrochez-vous, ça vaut le détour.
Accrochez-vous, ça vaut le détour.
Après, il y a une multiple adaptation en bande dessinée qui se sont faites, et même avec une approche un peu dans un trait plus comics qui est aussi chapeauté par l'auteur lui-même. Donc en fait, il y a quand même cette façon de faire en BD qui est possible actuellement.
J'ai des cours avec un dessinateur différent à chaque fois. Vous avez vraiment une très belle palette de toute l'œuvre de
la BD. Nous sauvera tous. Merci à tous. J'aimerais également faire un grand merci à Arnaud Tomassini que vous venez d'entendre, le rédacteur en chef de Comics Blog, créateur du podcast First Print. Et on se retrouve donc dans un mois pour Crossover épisode 4 qui aura pour sujet les futurs possibles anticipations dans la BD américaine. D'ici là, prenez soin de vous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.